divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui la Grande Loge féminine de France. Au micro Béatrice Klein, je reçois Marie-Thérèse Besson, réélue présidente de la Grande Loge féminine de France.
Bonjour.
Vous venez d'être élue pour un deuxième mandat. Le moment peut-être de nous faire part de votre regard sur cette première année.
Eh bien, ce fut une année d'activité intense, ce fut une année très prenante, et puis ce fut une année riche des rencontres avec toutes les sœurs de l'obédience que j'ai pu découvrir. J'ai découvert leur formidable diversité, j'ai découvert le potentiel incroyable qu'elles représentent toutes. Alors, dans l'entreprise, il est demandé la rédaction de ce que l'on appelle un rapport d'étonnement quand on arrive quelques mois après. Alors, en équivalence, je dirais ici que ce qui m'a frappé au sein de notre obédience, c'est la somme de travail à accomplir, sa diversité, la multiplicité des tâches et parfois, il faut bien le dire aussi, leur complexité.
Et je crois que vous êtes aussi très impliquée dans l'international.
Oui, bien évidemment, nous rayonnons au sein de l'Europe et aussi au niveau de l'international. Et cela génère également énormément de déplacements pour aller à la rencontre de toutes ces sœurs qui sont aussi à l'étranger, ici ou là.
Alors, dans vos découvertes et vos enthousiasmes, je crois que les commissions de travail et tout le travail et la diversité qui est accomplie vous ont également frappé.
En effet, nous avons en particulier, et je tiens à le signaler au sein de notre obédience, nous avons des commissions de travail, en particulier des commissions de travail sur les droits des femmes, sur la laïcité, sur l'histoire, sur le développement durable. Et j'ai très vite remarqué, je dois le dire, le travail de ces commissions. J'ai apprécié le travail qu'elles effectuent. J'ai apprécié l'implication des sœurs et leur engagement. Elles sont, il faut bien le dire, de véritables appuis techniques, chacune dans leur domaine de compétences.
Y a-t-il une sœur de la Grande Loge féminine de France ou des sœurs ?
Il y a des sœurs de la Grande Loge féminine de France, bien évidemment. Notre obédience est plurielle. Je le savais déjà, mais là, vraiment, je peux dire que je le vis au quotidien. Et je dirais que les moments de joie que j'ai pu vivre sont ceux de la rencontre avec les sœurs de l'obédience, toutes les sœurs, de tous les lieux, on dit chez nous de tous les Orients, quel que soit le
Alors,
lieu où elles
qu'un
habitent.
Qu'est-ce qu'un Orient ?
Un Orient, ce sont les lieux où elles habitent, qui peuvent être situés à l'Orient, à l'Occident, au Nord, au Sud, peu importe. Et c'est un véritable bonheur, je le dirais, un véritable bonheur que de découvrir l'autre, de découvrir l'intensité de leur regard, découvrir cette reconnaissance qu'elles ont aussi envers l'obédience. Et ces moments-là, je vous assure, valent vraiment tous les efforts.
Alors, nous avons compris que votre première année vous a enthousiasmé et permis de nombreuses découvertes. Nous sommes maintenant à l'aune de la deuxième année. Quelles sont les orientations que vous avez en tête pour conduire cette grande obédience féminine ?
Alors, nous avons déjà mis en chantier une réflexion sur les orientations et la politique générale de notre obédience. Comment est-ce que nous voulons nous développer? Pourquoi? De quelle manière allons-nous nous y prendre? Il s'agit là d'une vraie réflexion que nous conduirons toutes ensemble. Il y a un autre sujet de réflexion qui est le rééquilibrage des régions. En effet, est-ce que la taille des régions est encore adaptée au jour d'aujourd'hui? Nous faisons comme le gouvernement, voyez, nous refaisons la taille des régions. Et en lien avec cela, nous pouvons nous poser la question de savoir quel est le rôle des membres du conseil d'administration. Est-ce qu'il ne faut pas revoir ce rôle, le rôle de celles que l'on appelle chez nous les conseillères fédérales?
Vous aurez peut-être un débat un peu moins fourni sur les noms qu'il faudra leur donner pour ce qui concerne la Grande Loge féminine de France. Mais nous venons de parler des régions de France. Et si nous quittions un petit peu l'Hexagone?
Alors, à l'international, il faut bien le dire, un développement bien conduit est indispensable pour nous parce qu'il est en lien avec notre rayonnement et il doit pouvoir favoriser la création de nouvelles obédiences. Alors, il faut déjà peut-être rappeler que nous avons déjà des obédiences filles dans le monde. En ce sens que l'obédience belge, par exemple, l'obédience suisse, italienne, espagnole, portugaise, je parle des obédiences féminines, sont des filles de la Grande Loge féminine de France. Et je me suis, moi, engagée, lorsque j'ai présenté à nouveau ma candidature, à favoriser la création de nouvelles obédiences lorsque les loges sont suffisamment nombreuses et lorsque les sœurs sont prêtes à se prendre en charge. En particulier, je pense à une obédience ou deux qui vont vraisemblablement se faire dans les années très proches, qui se situeraient en Afrique subsaharienne, peut-être un peu plus tard au Maroc, voire encore en Europe. Donc vous voyez que nous avons encore du travail à faire.
Mais nous venons justement de parler de l'Hexagone, puis du plus lointain avec l'international. L'Europe est aussi un sujet d'actualité dans notre citoyenneté. Que pouvez-vous nous dire sur la Grande Loge féminine de France et l'Europe ?
Je crois que nous faisons et nous devons encore faire porter nos efforts sur l'Europe. En effet, nous avons actuellement une structure qui existe qui s'appelle l'IME, l'Institut maçonnique européen, que nous avons fondé en 2008. Et je crois que nous devons maintenant adapter sa représentativité parce que il y a des initiatives qui émanent un petit peu de partout et nous devons absolument nous adapter et nous intégrer encore plus dans l'Europe telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui.
Donc finalement, que ce soit dans l'Hexagone, que ce soit dans des territoires plus lointains ou en Europe, la Grande Loge féminine de France a vraiment vocation à soutenir des femmes partout dans le monde.
Absolument. Et ça, vraiment, pour nous, c'est un point extrêmement important, je dirais même fondamental. Parce que nous pensons que le choix, déjà, d'entrer dans une obédience féminine permet aux femmes de valoriser leur singularité, de libérer leur parole, parce qu'elles sont là dégagées des pressions, des préjugés sociaux, des préjugés culturels. Il existe des façons d'être et d'agir différentes des femmes. Et la loge, eh bien, c'est un espace de rencontre et d'échange avec des femmes de tous âges, de tous horizons, de toute culture.
Qu'est-ce que ça change d'être initié finalement ?
Eh bien, être initié, c'est se construire, certes, mais c'est aussi agir. C'est prendre position. C'est se sentir responsable du monde réel dans lequel nous vivons. Et entrer dans une obédience féminine, eh bien, c'est se battre pour celles qui n'ont pas la liberté de se battre. C'est se battre pour celles qui n'osent pas ou celles qui ne peuvent pas parler. Toutes les femmes qui intègrent la Grande Loge féminine de France ont conscience de la nécessité de se forger une véritable parole de femme. Parce que les femmes sont encore trop souvent prisonnières des représentations collectives, je dirais, et de l'imaginaire social.
Est-ce à dire que le droit des femmes n'est jamais un combat terminé ?
Je crois qu'il n'est jamais un combat terminé, effectivement. Et nous devons être particulièrement attentifs à la promotion des femmes, au respect de leurs droits, à leur dignité, quel que soit le lieu où elles vivent. Et je crois qu'il faut que nous disions que notre appartenance à la franc-maçonnerie féminine constitue un véritable espace de liberté pour nous-mêmes, un lieu d'émancipation pour celles friandes d'autonomie qui osent ainsi s'aventurer et se parfaire dans pratiquement tous les domaines de la connaissance humaine, là où l'intimité, là où elle peut être abordée et visitée sans crainte.
Je me suis laissé dire que la Grande Loge féminine de France était une jeune femme de 70 ans.
C'est vrai. Nous avons vu le jour en 1945, le 21 octobre 1945. Nous nous appelions alors l'Union maçonnique féminine de France. Et en 1952, nous avons pris le nom de Grande Loge féminine de France. Mais nous fêtons nos 70 ans. Alors comme nous sommes très heureuses de faire la fête et de fêter ces 70 ans, eh bien nous avons décidé de les fêter pendant un an et demi. C'est-à-dire que depuis le 21 octobre 2015 et jusqu'au mois de mai 2017, nous allons fêter nos 70 ans. Et cette célébration que nous avons commencée est vraiment une belle réussite qui traduit la créativité et le dynamisme de toutes nos loges, puisque toutes les opérations qui sont menées dans ce cadre-là sont des opérations qui sont générées par les loges dans les régions en France, mais aussi, bien évidemment, à l'étranger.
Alors, je me suis laissé dire que vous aviez un objectif de démystifier un peu la franc-maçonnerie, travail lui non plus jamais achevé. En quoi les événements du 70e anniversaire vont y contribuer ?
Alors, au cours de ces 70 ans, je fais personnellement énormément de conférences publiques. Et je crois qu'il est important que nous expliquions qui nous sommes, comment nous fonctionnons, quelles sont nos valeurs, quels sont nos objectifs, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur la franc-maçonnerie. Donc c'est un véritable enjeu, une véritable gageure que de nous faire connaître. Et je me rends compte au cours de ces conférences qui recueillent beaucoup de succès, nous avons beaucoup de personnes qui viennent à notre rencontre, qui sont tout à fait heureux et très contents de nous poser des questions auxquelles nous répondons sans aucun problème.
Je crois aussi que la Grande Loge féminine de France peut être généreuse dans la vie sociale. Et je crois qu'il y a une action qui vous tient à cœur, qui a été menée avec les migrantes de Calais en particulier.
Effectivement, j'ai fait au mois de janvier de cette année une visite dans les camps de Calais et de Grande-Synthe. Et nous avons décidé à la suite de cela d'apporter notre soutien à une association qui s'appelle Gynécologie sans frontières. C'est une association qui réalise la prise en charge médico-psychosociale des femmes et de leurs enfants dans les camps de migrants du Nord et du Pas-de-Calais. Donc ça, pour nous, c'est très important. Nous soutenons l'action de cette association qui prend en charge toutes les femmes en détresse. Et Dieu sait s'il y en a.
À l'occasion de cet anniversaire, à l'occasion de tous ces événements, on voit à la fois l'aspect très intérieur de la maçonnerie, de l'initiation et de la Grande Loge féminine de France, et aussi l'aspect de sa contribution à la vie de la cité. Finalement, c'est un peu ce qu'est la vie d'une franc-maçonne, si je vous entends bien.
Tout à fait. Nous travaillons à l'intérieur de nos loges. C'est dans nos loges que nous nous construisons. Mais il est indispensable pour nous que nous allions porter à l'extérieur. Nous portons, si vous voulez, nous, francs-maçons de la Grande Loge féminine de France, une double responsabilité. Celle de transmettre les outils et les valeurs que nous avons reçus, mais également d'œuvrer dans la cité et dans le monde, parce que nous voulons bâtir une société qui soit plus consciente, qui soit plus fraternelle, plus juste, plus équitable. Je dirais en un mot, qui soit plus éclairée.
Avez-vous le sentiment qu'il est important aussi de brasser toutes les générations dans votre obédience, de faire en sorte d'attirer les jeunes ? Je crois que vous avez organisé il y a peu de temps un colloque avec des frères qui avaient pour objectif de parler vraiment à la jeunesse.
Absolument, nous avons organisé un colloque au mois d'avril à Paris avec les jeunes et sur les jeunes. Et c'est une opération qui a été très, très fructueuse avec des échanges entre les jeunes et les francs-maçons qui ont été extrêmement intéressants. Il nous a d'ailleurs été demandé de reconduire cette opération qui aura lieu en principe à Lille en mars 2017 et ensuite à Marseille.
Quelle vision avez-vous l'impression qu'avaient ces jeunes sur la franc-maçonnerie pour le peu qu'ils en savaient ou par rapport aux questions qui ont été posées ?
Alors je crois que justement, ils ne savaient pas trop ce qu'était la franc-maçonnerie. Et ce qui les a intéressés, c'est quelle approche nous avions, nous, d'un certain nombre de thèmes. Nous avons par exemple parlé avec eux du travail, nous avons à parler avec eux de l'amour. Donc il était important que nous puissions échanger sur ces thèmes-là. Et je crois que vous savez bien que la rencontre avec l'autre est toujours génératrice de quelque chose d'extrêmement positif. Et nous avons effectué cette rencontre pour notre plus grand bonheur.
Donc c'était aussi une forme de démystification finalement, mais sur un public peut-être, vu son
plus
âge,
ciblé.
Un petit peu moins averti.
Tout à fait. Nous avions tenu à avoir des jeunes qui avaient moins de 35 ans. Ils étaient au rendez-vous et vraiment, je crois que ça a été une opération extrêmement profitable pour tout le monde.
Après cet événement-là et les autres, j'imagine que la Grande Loge féminine de France a envie d'accueillir en son sein, pour continuer ce brassage de générations que j'évoquais tout à l'heure, des nouvelles femmes qui deviendront des nouvelles sœurs et qui contribueront également à bâtir cette société dont vous nous parliez.
Absolument. Toutes les femmes qui veulent nous rejoindre sont les bienvenues. Elles peuvent trouver nos coordonnées sur le site de la Grande Loge féminine de France. Sachant que les francs-maçons de la Grande Loge féminine de France aspirent à construire une société, encore une fois, harmonieuse, une société équitable, responsable, qui sera fondée sur des valeurs de liberté, de tolérance et de respect. ce qui nous fait bien défaut à l'heure actuelle.
Vous avez exposé tout à l'heure l'ampleur du travail qui vous revenait, que vous aviez accompli au cours de votre premier mandat. Avez-vous le sentiment que la deuxième année sera plus apaisée ou encore plus remplie ?
Je ne crois pas qu'elle sera plus apaisée parce que quand je regarde mon agenda de l'année 2017, il est déjà plein. Donc, à mon avis, il y a encore beaucoup de travail à accomplir, mais je le fais avec beaucoup de joie. Et vraiment, je crois que c'est une vraie chance pour moi que de pouvoir occuper cette fonction. Vraiment, une véritable expérience. Alors, on peut peut-être préciser encore qu'au cours de cette année, il y a un événement qui est important, me semble-t-il, qu'il est important de signaler. C'est l'exposition qui est organisée par la Bibliothèque nationale de France jusqu'au 24 juillet. Il y a une exposition sur la franc-maçonnerie et je crois que puisqu'on parlait de démystification, je ne peux qu'inciter nos auditeurs à aller visiter cette exposition, exposition au cours de laquelle ils vont pouvoir découvrir vraiment ce qu'est la maçonnerie, découvrir son histoire à travers toutes les obédiences et tous les événements qui l'ont traversé. Et puis parce que ce n'est pas très loin, je peux préciser encore que nous allons participer aux journées du patrimoine et nous avons entre autres deux sites qui pourront être visités, l'un à Lyon, à la Croix-Rousse, et l'autre à Paris, dans le 11e arrondissement. Donc là encore, tous ceux, toutes celles qui souhaitent venir à notre rencontre, qui souhaitent venir visiter ces lieux, voir des objets maçonniques, seront bien évidemment les bienvenus au cours de ces journées du patrimoine.
Écoutez, il nous reste à vous remercier. Vous avez beaucoup de pain sur la planche et nous vous souhaitons vraiment bon courage pour cette année et donnons rendez-vous à la rentrée à tous les auditeurs.
Je vous remercie.